En commençant cette prédication, j'aimerais vous poser et nous poser à chacun d'entre nous une question. À quoi veux-tu que ta vie ressemble dans un mois? À quoi veux-tu que ta vie ressemble dans 6 mois? À quoi tu veux que ta vie ressemble dans 1 année? Comment est-ce que tu envisages ton futur personnel? Mais comment est-ce que tu envisages aussi le futur de ton église, de ta communauté? Quels sont tes plans? Quels sont tes projets? Ou en d'autres mots, comment entrevois-tu ta destinée? Comment est-ce que tu vois ta vie d'ici quelques mois? Est-ce qu'elle aura stagné ou est-ce qu'elle aura progressé? Il y a en tout cas un homme dans les Écritures qui savait très bien ce à quoi il était destiné et c'était ce vers quoi il allait. C'était ce vers quoi il mettait toute son énergie. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Josué savait ce pourquoi il était fait. Et il savait la direction des efforts qu'il devait entreprendre. Il connaissait sa destinée. Il savait ce vers quoi il allait. Et ce vers quoi il allait, c'était ni plus ni moins que la conquête de ce pays qui avait été promis, non seulement à Moïse, mais encore des dizaines et des quelques centaines d'années avant, à Abraham, son père, son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, son père dans la foi en tout cas. Ce pays, je te le donne. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous avons tous un héritage. Nous avons tous une destinée et c'est ce vers quoi l'Éternel veut te conduire. C'est ce vers quoi Dieu veut t'amener. Ton héritage t'attend. Ta destinée t'attend. Tu y es déjà maintenant en partie, mais tu es appelé à en prendre possession encore davantage. Canaan, c'est bien sûr une image de ce territoire, c'est une image de cet héritage spirituel que le Seigneur réserve pour toi. Bien sûr, c'est un territoire physique, mais on le sait bien dans les Écritures, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est comme une image que Dieu nous donne. Et le Seigneur, je pense, a envie de te dire, comme il n'arrête pas de nous le dire ces dernières semaines d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de quoi tu peux te saisir. Il y a des choses plus grandes encore à vivre. Il y a une destinée encore à conquérir. Il y a un terrain dont tu dois encore prendre possession. C'est pour toi. C'est à toi. Le Seigneur te l'a réservé, le Seigneur te l'a promis, c'est donc pour toi. D'ailleurs, l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit lui-même dans l'épître aux Éphésiens, la première épître aux Éphésiens évidemment, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1er, le verset 18, et l'héritage, ce n'est pas simplement une fois que nous aurons fermé les yeux, c'est ça bien sûr en grande partie, mais il y a toute une partie de cet héritage que l'on peut ou dont on peut s'emparer déjà aujourd'hui. Quelles sont ces parts d'héritage que le Seigneur nous réserve? Bien sûr, on le sait, ce sont tous ces biens, ce sont toutes ces bénédictions, ce sont toutes ces promesses que le Seigneur nous a données dans les Écritures. Celles qui nous concernent, nous, d'une manière plus particulière, parce que le Seigneur nous a parlé au travers des Écritures, mais celles aussi qui sont adressées au peuple de Dieu d'une manière plus générale. Y a-t-il, par exemple, un trait de ton caractère qui doit changer? Ça fait partie de ton héritage. D'être changé dans cet aspect de ton caractère. Y a-t-il une faiblesse personnelle, une dépendance, une mauvaise habitude, quelque chose de malsain que tu cultives et dont tu n'arrives pas à te détacher? Le Seigneur veut te rendre libre. Ça fait aussi partie de ton héritage. Y a-t-il un membre de ta famille qui n'est pas converti pour lequel tu pries depuis des années? Sa conversion fait aussi partie de ton héritage. Y a-t-il une maladie, une infirmité avec laquelle tu te bats et peut-être même avec les médecins? Pourquoi le Seigneur ne jetterait-il pas sa faveur sur toi en disant « Aujourd'hui, je le veux, sois guéri de ta maladie » ? Y a-t-il un appel ? Y a-t-il un don ou des dons ? Y a-t-il un ministère sur ta vie ? Ça aussi, prends-en possession. C'est à toi, Dieu te le réserve. Et encore, y a-t-il une influence positive que tu dois avoir au travail ? Mais bien sûr, le Seigneur veut te la donner afin que d'autres voient la gloire de Christ être reflétée par ton comportement. Walter et Jean-Paul, Dieu n'a-t-il pas encore en réserve de superbes bénédictions pour notre communauté? Bien sûr que oui. Prenons possession de ces choses. Prenons possession de ces choses. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais dans une transition professionnelle et aussi financière assez sérieuse, j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Seigneur, comment est-ce que tu vois l'ensemble de cette situation ? Et là, le Seigneur a dit clairement à mon cœur, comme parfois, vous savez, il y a des paroles de Dieu qui nous touchent, et on sait que c'est Dieu qui nous parle. Il m'a dit, réclame ta part d'héritage. J'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Réclame ta part d'héritage. Oui, mais Seigneur, moi je te parle de telle situation. Là, ça, réclame ta part d'héritage. Alors, sans vraiment comprendre ce à quoi le Seigneur faisait référence, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux me dire par là. Mais je réclame ma part d'héritage. Et régulièrement, le matin, seul, avant que tout le monde était levé dans la maison, je disais sur mon canapé, Seigneur, je réclame ma part d'héritage. Seigneur, je veux ma part d'héritage. Seigneur, je veux ma part d'héritage. Seigneur, je veux ma part d'héritage. Et les yeux de mon cœur, et les yeux physiques aussi, pour certains aspects, ont commencé à s'ouvrir. Et j'ai compris qu'en fait, ma part d'héritage était ni plus ni moins que tout ce qui m'était réservé dans les Écritures. Pourquoi ? Parce que je suis un fils de Dieu. Et parce que mon Père est un Dieu riche, en bénédiction, en grâce de toutes sortes. Il y a une part d'héritage pour vous aussi, pour chacun d'entre nous. Et c'est à chacun d'entre nous de la réclamer encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on les voit s'accomplir, jusqu'à ce que l'ensemble de ces bénédictions nous soit accordé. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que l'Éternel a envie de nous voir vivre pour notre communauté. Elle ne peut pas rester comme elle est. Même si nous sommes extraordinairement bénis, mais il y a plus encore. Il y a plus encore. Il y a un psaume qui dit quelque part, « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Oui, il est plein d'eau. Il est plein de grâce. Il est plein de bénédictions. Il y a 2 ans en arrière, mon épouse et moi, on était à Jérusalem, au mois de novembre. Et alors que certains d'entre vous connaissaient bien le pays, il peut faire très très beau pendant longtemps. Mais au début novembre, fin octobre, début novembre, mi-novembre, ben c'est la pluie qui commence à tomber. Et parfois, ça tombe sec. Et comme on voyait les nuages s'amonceler, on s'est dit, on ne va pas aller visiter un endroit ou un autre, on va aller se réfugier dans un musée. Alors on est allé dans le grand musée de Jérusalem. Il y a de l'archéologie, il y a de l'art moderne, etc. Quand vous y allez, c'est un très bel endroit à visiter. Et quand on est ressorti, c'était des trombes d'eau qui coulaient. Vous savez que la ville est construite sur des collines. Et alors qu'on marchait dans une grande avenue de la ville, il y avait des rues de part et d'autre qui descendaient de ces collines. Et parfois, on avait du mal à passer parce que c'était un ruisseau qui coulait par là, en pleine ville. Et on était obligé de passer dans la flotte. Moi, j'avais des baskets toutes légères quand je suis arrivé, j'avais l'impression de marcher dans une baignoire. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça les ruisseaux de Dieu. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il y a plein de grâce. Le témoignage de notre sœur, ce soir, vient juste de nous le rappeler. Et je me souviens aussi qu'une année après ma conversion, je me suis converti le 15 décembre 1979. Une année après ma conversion, ou peu de temps avant, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes la vie de mon frère aîné. Je sais qu'il croit en toi parce que c'est lui qui a ramené plusieurs Bibles à la maison que mon père avait lues, lui aussi, avant de décéder. Seigneur, je veux la vie de mon frère. Il n'est pas encore converti. Même s'il a fréquenté des groupes d'études bibliques pendant plusieurs années, il a ramené des Bibles à la maison. Seigneur, je veux que mon frère aîné te connaisse. S'il te plaît, Seigneur, c'est bientôt Noël. Fais-moi ce cadeau. J'étais converti à peine depuis quelques mois. C'était l'innocence de la conversion. Mais une saine innocence et une sainte innocence qu'on doit retrouver avec laquelle on doit faire, je crois, pour parfois poser des questions à Dieu, demander des choses qui parfois sont folles à Dieu, les demander à Dieu qui sont folles à nos yeux plutôt, pour être plus juste. Mais pourquoi ? Soyons fous, voyons grand. Alors j'ai insisté auprès de mon père pendant plusieurs semaines. Certains disent, notamment les Américains, ils disent « oui, j'ai bombardé le ciel ». J'ai dit, Seigneur, je veux la conversion de mon frère. Seigneur, je te le demande pour le 24 décembre 1980. Et je priais et je priais. Le 22 décembre, rien. Le 23 décembre, rien. Le 24 décembre, rien. Je dis, Seigneur, demain c'est le 25, c'est encore Noël. Tu peux encore répondre à ma prière. Le 25 décembre, rien. Le 26, rien. Je dis, Seigneur, je ne vais pas arrêter là. Je n'ai pas eu mon cadeau, mais je l'aurai. Seigneur, je veux la conversion de Claude. Je suis retourné à Strasbourg pour continuer mes études, début janvier. Et voilà qu'un soir, ma sœur frappe à la porte, elle me dit « Écoute, il faut que je te parle. » Je dis « Ouais, ben rentre. » Elle rentre dans ma petite chambre d'étudiant, elle me dit « Écoute, il y a un gros souci là. Claude a eu un accident de voiture. » Je dis « Non. » Je dis « Non. Non, j'ai prié. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. » Et ma sœur m'a dit « Mais t'inquiète pas, tout va bien. Lui et sa femme, Jacqueline, tout va très bien. Ils sont sortis indemnes tout juste de l'accident. » Et ça va, ils vont bien. Ils sont un peu amochés, mais ils vont bien. Alors j'ai téléphoné à ma mère, j'ai dit, écoute maman, quand je rentre à la fin de la semaine, on va aller voir Claude à Dole, tout près de là, hein, dans le Jura. Et puis, on a fait nos bagages, on est allé chez mon frère et ma belle-sœur. Et là, quand mon frère ouvre la porte de la maison, c'était la gloire sur son visage. Je me suis dit, oh là là, c'est peut-être les effets des antibiotiques ou je ne sais pas quoi, et peut-être que c'est les médicaments qu'il prend, que le médecin lui a donné. Mais non, il y avait comme une gloire, comme il rayonnait. Je suis entré dans la maison, sa femme était allongée sur le canapé, et j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et mon frère a dit, oui, je me suis converti. Oh ! Et on a une ouvrière de plus aussi dans la maison, parce que Jacqueline aussi s'est convertie. Et il m'a expliqué les circonstances, la voiture avait glissé sur une plaque de verglas, s'était retournée dans le bas-côté, sur le toit. Lui, il avait été éjecté par la porte, il a juste eu le temps de tirer sa femme de la voiture, et la voiture s'est écrasée. Et j'ai trouvé ça, Dieu était vraiment fantastique. Oui, ça vaut la peine de prier, ça vaut la peine de réclamer notre part d'héritage, celles et ceux qui doivent encore entrer dans le royaume. Ça vaut la peine d'insister. Si on relit attentivement le livre de Josué au chapitre 1er, le verset 2, Dieu dit « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. » Ce n'était pas pour tourner en rond. Ce n'était pas pour perdre son temps. Ce n'était pas pour toutes sortes d'illusions. Josué n'avait qu'une seule option dans sa vie, c'était entrer dans ce pays. Aujourd'hui, on dirait point barre. C'était sa seule option de vie. Il devait entrer dans ce pays et en conquérir chaque territoire, étape après étape. Le programme du Seigneur pour nous, c'est la même chose. Il ne nous sauve pas pour que nous tournions en rond. Il ne nous sauve pas pour que nous vivions d'une manière pauvre spirituellement, mais il nous dit « j'ai quelque chose en réserve pour toi, un héritage dans lequel tu vas te réjouir et dans lequel d'autres vont pouvoir entrer. Parce que non seulement toi tu seras béni, mais tu seras aussi béni pour d'autres personnes. » J'aime bien cette parole de Néhémie. J'ai lu Néhémie ces derniers temps, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Quand je me suis converti, j'ai passé beaucoup de temps à lire l'Ancien Testament. Plus tard j'ai compris pourquoi. Néhémie chapitre 2, le verset 20. Vous savez que Néhémie avait été appelé à reconstruire les murailles de Jérusalem parce que cette ville avait été rasée en grande partie. Et Dieu avait suscité un roi pour dire à Néhémie, ben voilà, c'est où Esdras plutôt, quelque temps auparavant, c'est le moment de reconstruire. Esdras est allé, Néhémie l'a suivi. Et quand Néhémie a essayé de reconstruire, juste après Esdras, ben vous savez tous les problèmes qu'il y a eu, toute l'opposition. Tous les païens qui étaient restés sur place et qui s'opposaient au plan de Dieu. Et voilà la réaction de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie chapitre 2, verset 20. Dieu, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Est-ce que je pourrais avoir assez d'audace ce soir pour dire « Le projet de Dieu pour ta vie, c'est le succès. » Je bouscule peut-être tes paradigmes, mais tant mieux, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur n'a pas programmé, entre guillemets, ta vie pour l'échec. Il veut ton succès dans tous les domaines de ta vie. S'agit-il de triomphalisme, d'orgueil ? Non. Je ne crois pas. Pour la simple et bonne raison, et on l'a entendu tout à l'heure dans la prière de quelqu'un, si Dieu est pour nous, qui osera être contre nous ? Moi, je traduis ça comme ça. Dieu veut que je réussisse ma vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Ton Père veut te voir réussir ta vie. Quel Père dans cet auditoire pourra jamais dire à un de son fils ou à une de ses filles, écoute, ce qui t'arrive de ta vie, je m'en fous complètement. Aucun père ne réagirait comme ça. Aucun père sensé ne réagirait comme ça. Tout père qui a de la clarté dans les idées dira à son fils ou à sa vie, mais je veux que tu réussisses ta vie. Ton père veut que tu réussisses ta vie. Et si Dieu est avec toi, qui osera être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui osera s'élever contre toi? La réponse, vous la connaissez. Personne. Et s'il y en a qui tentent, c'est eux qui échoueront et c'est toi qui vaincras. Ça, c'est le programme de Dieu. Et Dieu a dit à Josué, mais tu sais, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que c'était facile tout le temps pour Moïse? Non, de loin pas. Il n'y a qu'à lire le livre de l'Exode. Juste l'Exode, ça suffira pour avoir une très bonne idée de ce que Moïse a dû subir. Mais Dieu a été avec Moïse. Et ensuite, il a été avec Josué. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont réussi leur vie. Alors soyons réalistes. Pas triomphaliste, mais réaliste. Oui, il y a des dangers. Oui, il y a des faiblesses. Oui, il y a nos erreurs. Oui, il y a nos mauvais choix. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des limites. Oui, il y a des manques de prévision. Mais Dieu ne change pas de plan. Il demande que tu conquières ton territoire. Il veut que tu t'empares de ton héritage. Josué chapitre 1, verset 2, laissez-moi juste revenir à une phrase qui est dite ici. « Maintenant, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Maintenant, lève-toi, lève-toi. Josué était-il assis? Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il sommeillait? Je ne pense pas, c'est une expression, c'est une image. Qui veut simplement dire la chose suivante, positionne-toi intérieurement pour conquérir ce pays qui t'appartient déjà. Je pense que conquérir ce territoire, conquérir cet héritage, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une question de mentalité. Il y a plusieurs choses dans cet état d'esprit, il y a plusieurs choses dans cette mentalité. Je pense que ça veut dire, premièrement, sortir d'une mentalité d'orphelin, une mentalité ou d'un état d'esprit de pauvreté, où on vit comme des démunis, comme des pauvres spirituellement. Je suis né dans une famille française bourgeoise. Mon père est né dans le nord de la France. Il était mineur dans les mines de charbon. Et c'était le seul qui a eu le privilège de pouvoir faire des études d'ingénieur notamment. Et à un moment donné, il est venu s'installer en Alsace. Il a continué une partie de son apprentissage dans les mines de potasse en Alsace. Il a rencontré ma mère, ils eurent beaucoup d'enfants, ils se marièrent évidemment. 6 enfants, moi je suis le dernier avec mon jumeau. Et il s'avère que mon père avait réussi d'une manière, sur le plan social, c'était superbe. Il aidait aussi sa famille financièrement. Mais ma mère était restée scotchée, dans un état d'esprit, dans un esprit de pauvreté. Elle avait fui la Pologne avec ses parents entre les deux guerres. Ils étaient venus s'installer en Alsace. Et après quelques années d'installation, le prêtre de la paroisse qu'ils fréquentaient leur avait dit « Vous devez fuir parce que les Allemands viennent vous chercher. » Et ils ont fui une deuxième fois pour aller s'installer dans le sud-ouest, près d'Agen, près de à côté de Villeneuve-sur-Lot. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent où se trouve Villeneuve-sur-Lot. Et quand ils sont revenus en Alsace après la guerre, ils ont découvert que la maison qu'ils avaient habitée pendant quelque temps en Alsace avait été prise par d'autres. Et ma mère nous disait régulièrement, mais ce qui faisait le plus mal au cœur à ma mère, c'était de voir que les rideaux de sa maison pendaient toujours aux fenêtres. Ce sont des choses matérielles, mais qui peuvent toucher. Et comme ça, ma mère avait gardé cet état d'esprit d'errance, de fuite, de pauvreté, de devoir se démunir pour pouvoir sauver sa vie. Je pense que quand on est croyant, on peut entrer dans la vie chrétienne aussi avec une mentalité comme ça. On reste pauvre, orphelin. On vit comme si notre Père céleste n'avait pas de bonnes grâces à nous accorder. Alors on économise tout, on garde un œil sur tout, on contrôle tout, parce qu'il faut surtout tout compter jusqu'au moindre centime, au moindre bout de ficelle. Mais Dieu est tellement plus large. Alors on n'ose pas entrer dans ce pays promis parce qu'on se dit « mais c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop riche, moi je n'ai pas ma place là-dedans ». Oui, tu as ta place là-dedans. Cette mentalité-là, Ce positionnement intérieur, maintenant lève-toi et conquiert, commence par « je dois me défaire de cette mentalité d'orphelin ou de pauvre » ou cette mentalité de victime où je vis constamment toutes sortes de faiblesses qui me dominent ou les autres qui me dominent. Et si ça ne va pas dans ma vie, c'est la faute des autres. Non, ce n'est pas la faute des autres. Peut-être que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si tu n'arrives pas à vivre pleinement tout ce pourquoi tu es appelé, c'est peut-être à cause de toi. Réfléchis. Sortir aussi de l'indécision. L'apôtre Jacques le dit. Celui qui est ballotté de droite et de gauche, celui-là qui n'espère pas recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce qu'il est inconstant dans toutes ses voies. Il est temps de se décider, de se positionner intérieurement et de dire, Seigneur, maintenant je garde la ligne. Je me décide de conquérir mon territoire et d'obtenir mon héritage. C'est pour moi, tu me l'as donné et je n'en démordrai pas. Ça veut dire parfois aussi faire taire ses émotions, faire taire ses peurs. Ça veut dire aussi dire non à la passivité, non à la négligence, non à la paresse. Et j'ose le mot, non à la mollesse. On l'a entendu ce matin, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et même si notre frère Walter ne nous en avait pas parlé, je l'aurais dit quand même. C'est vrai qu'il y a des domaines de nos vies où on pourrait être paresseux ou mou. Et le Seigneur nous dit, mais secoue-toi. Secoue-toi. Il y a tellement plus à vivre avec moi que ce que tu vis pour le moment. Secoue-toi. Josué chapitre 18, les versets 1 et 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation, le pays était soumis devant eux. Le pays était soumis, hein ? Mais il restait 7 tribus des enfants d'Israël, qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Et Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Jusqu'à quand vous allez négliger de vivre ce pour quoi vous êtes faits ? » Ah, la négligence ! Moi, je sais qu'il y a des domaines de ma vie où je suis négligent. Mon épouse Christiane est là parfois pour me le rappeler. Et parfois aussi, je dois prendre un stylo, un papier et puis l'écrire. Et me dire, ça j'ai compris, ça je dois le faire, ça je dois m'y accrocher. Alors, pour éviter la négligence, vous pouvez faire les choses de la manière suivante. Écrivez sur un papier ce que le Seigneur vous a dit et collez-le partout dans votre appartement. Et même sur, ou à côté plutôt, l'écran de votre ordinateur au bureau. Si vous le mettez dessous, vous ne verrez plus rien sur l'ordinateur. Donc mettez-le plutôt à côté. Et cultivons ce que le Seigneur nous dit, les interpellations qu'il nous donne, jusqu'à ce que nous obtenions ce que le Seigneur nous a promis. Un jour, il y avait un roi qui s'appelle Joas, qui est allé voir un prophète, Élisée. Élisée était sur son lit de mort. Joas arrive et il pleure. Le prochain départ d'Élisée. Évidemment, il y avait quelque chose de particulier entre ces deux hommes, et surtout parce que Joas avait beaucoup été aidé par les prophéties d'Élisée. Et vous savez comment Élisée a réagi ? Il lui a dit, Joas, lève-toi, prends un arc. Attends, Élisée, tu es sur ton lit de mort, tu vas bientôt partir. Prends un arc. Joas prend son arc. Élisée lui dit, étends la corde, place une flèche. Et Joas le fait. Et la Bible nous dit qu'Élisée a posé ses mains sur les mains de Joas. Alors imaginez-vous, Joas en train de tirer sa flèche ou de se préparer à tirer, et juste derrière lui, il y a Élisée qui vient mettre sa main sur la main de devant et sa main sur la corde. Et Élisée lui dit, mais on tire ta flèche, et il la tire. Élisée dit, voilà, ça c'est une flèche de victoire. Tel roi sera battu à telle période de l'année. Élisée se retire et lui dit, maintenant Joas, prends les flèches. Lisez le texte. Prends les flèches et tire. Alors Joas prend une première flèche, il la tire. Il en prend une deuxième et il la tire. Il en prend une troisième et il la tire. Et la Bible dit, et il s'arrêta. Et Élisée, il bouillonne. Il dit, mais Joas, pourquoi tu t'es arrêté là? Il fallait en tirer plus. Tu aurais vaincu plus de rois. Tu aurais conquis plus de territoires. Pourquoi t'es-tu arrêté là? Autrement dit, Joas, pourquoi es-tu négligent? Pourquoi négliges-tu de prendre ce pour quoi tu es fait? Tire tes flèches. Continue, cible, prie, intercède, positionne-toi encore et encore. depuis quelque temps avec mon épouse, si je dis ces choses, c'est pour nous encourager, pas pour en tirer quelque gloire. Avec mon épouse, ces derniers temps, régulièrement, tous les jours, et même régulièrement deux fois par jour, nous prenons position devant Dieu par rapport à deux ou trois sujets qui nous sont personnels. Et on dit, Seigneur, là, on veut notre part d'héritage. On revient, on ne voit rien venir encore. On n'a pas encore reçu ce qu'on te demande. Mais Seigneur, ça, on te le demande. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises, à Christiane et à moi, de dire, Seigneur, on ne te laissera pas partir tant que tu n'as pas répondu à notre demande. Nous voulons notre part d'héritage dans ce domaine. On la réclame, on la veut, on la veut, on la veut. Et chacun d'entre nous, nous pouvons faire la même chose. Y a-t-il quelque chose qui te tient à cœur? Alors tire tes flèches. Continue de cibler, continue d'intercéder, continue de demander. Tu vois rien? Ça fait rien. Continue, continue, continue. Ne te lâche pas. Et si tu es trop fragile, si tu es faible, si tu es fatigué, demande l'aide d'autres personnes. Mais ne te relâche pas, ne te relâche pas. Josué chapitre 13, verset 1er. « Lorsque Josué était vieux, avancé en âge, l'Éternel lui dit, « Tu es devenu vieux, Josué, tu es avancé en âge, mais le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. » Josué devait dire, « Oh Seigneur, écoute, c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais faire, maintenant tu ne crois pas que je peux me reposer ?» Non, tu n'es pas à la retraite. Tu es vieux, tu es avancé en âge, tu ressembles peut-être à une plume. Pour reprendre l'image d'il y a quelques semaines en arrière, tu es peut-être une plume, mais tu n'as pas fini ton œuvre. Il y a encore des choses à conquérir. Il y a encore des territoires à conquérir. Pourquoi est-ce que Dieu parle comme ça à Josué? Mais bien sûr, parce qu'il y a une limite naturelle, l'âge, la fatigue, les ans qui passent avec tout ce que cela comprend. Mais mes amis, ce n'est pas les limites naturelles qui doivent nous arrêter. Ce ne sont pas nos limites qui doivent nous arrêter. Tous les hommes de Dieu des Écritures ont tous eu des limites naturelles d'une manière ou d'une autre. Que ça a été Moïse qui bégayait quand il parlait. Que c'était Jérémie qui disait « Seigneur, mais je suis trop petit ». Gédéon qui disait « Seigneur, mais je suis le plus petit dans ma famille hein, ». Calimero. « Je suis le plus petit. Seigneur, ça ne va pas. Prends quelqu'un d'autre. » Dieu a dit « Non, c'est toi. Tu as des limites. Mais c'est avec toi que je veux faire. » Ou sous-entendu, mais c'est justement parce que tu as des limites que je vais faire avec toi. Parce que si tu n'en as pas, où ira la gloire? Qui la prendra? Qui se l'appropriera? C'est justement parce que tu as des limites que c'est toi que je choisis. Mes amis, tous les hommes de Dieu que les Écritures nous décrivent, Jacques est clair, c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. Ce qui a fait la différence, cependant, c'est que c'était des hommes qui en voulaient, qui étaient déterminés. Il y a un jour, une chrétienne, dans une étude biblique, je me souviens, dans une des églises où j'ai été pasteur, qui disait « Le Seigneur ne nous demande jamais de faire des choses que nous sommes incapables de faire. » J'ai dit non. Il ne nous demande jamais de faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas faits. Pour le reste, il s'en occupe. Parce que si nous devons nous arrêter aux choses que nous ne sommes pas capables de faire, la croissance s'arrête. Nous ne grandissons plus. Nous n'allons plus de l'avant. Y a-t-il des choses que tu ne sais pas faire? Eh bien, tant mieux, Dieu va les faire avec toi. Dieu va les faire avec toi. Tu vas peut-être être mis dans des zones d'inconfort. L'Évangile, ce n'est pas un trèfle à quatre feuilles qu'on accroche au-dessus de la porte de la maison en fer à cheval ou qu'on met dans le portefeuille en disant « Ouf, maintenant je suis converti, je suis chrétien, super, maintenant c'est le confort. » Non, 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 non. Dieu nous bouscule. Comme il a bousculé Moïse, comme il a bousculé Josué, en disant, mais attends, attends, il ne faut pas que tu t'installes. Moi, j'ai des choses à te faire vivre. Alors, tu vas être bousculé, mais c'est tant mieux, parce que tu vas grandir, parce que tu vas changer, parce que tu vas voir les choses sous un autre jour, parce que tu ne seras plus le même ou la même. Le Seigneur voit les choses d'une manière tellement différente de nous, et tellement plus grande, tellement plus vaste. Alors, c'est vrai que nous, on n'aime pas, on préfère le confort. Mais Dieu dit, non, j'ai autre chose en réserve pour toi. Et notamment, ce serait un des derniers versets que je vais utiliser pour cette prédication, Josué chapitre 1er verset 2. « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. » Moïse est mort, Josué, maintenant, c'est à ton tour. Josué, tu as vu ce géant de la foi, qui a aussi eu ses faiblesses. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Pas demain, maintenant. Et vous, mes frères et sœurs, vous avez entendu parler, vous avez vu des grands dans la foi faire des choses extraordinaires. Et ça vous fait rêver peut-être, et ça nous fait rêver. Le Seigneur nous dit aussi, maintenant c'est à ton tour. Maintenant c'est toi. Tu as vu les autres, tu as vu ce que je suis capable de faire dans la vie des autres, je suis capable de le faire aussi dans ta vie. Maintenant, c'est à ton tour. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Parfois, on entend dire dans nos milieux, vous savez, parfois dans les milieux évangéliques, on a toutes sortes de réflexions, voilà. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, le meilleur, c'est pour demain. Non, le meilleur, c'est aujourd'hui. Le meilleur, c'est aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, tu ne te décides pas, demain sera pire. Si Dieu te dit que c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que les choses doivent changer. Et c'est à partir d'aujourd'hui que les choses peuvent changer. Maintenant, lève-toi. D'ailleurs, si je reprends le contexte de l'Exode, et puis de la marche, et puis de l'entrée dans Canaan, dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, verset 15, l'apôtre nous met en garde. Il dit, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme Israël l'a endurci au moment d'entrer dans le pays de Canaan. » Relisons attentivement ces textes. Il s'agit bien du contexte de la conquête de Canaan. Oui, on peut réagir à ce type de prédication en disant, bon, ben oui, ben le pasteur ou le frère Michel a bien prêché, c'était super, bon, ben je verrai ça demain. Non, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que si tu dis que c'est pour demain, tu commences déjà à endurcir ton cœur. Et le Seigneur te dit, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Les Hébreux ne croyaient pas que Canaan était pour eux. Il y avait seulement Josué et Caleb qui avaient cru en l'héritage. Eh bien, ce sont eux qui y sont entrés. Les autres, ils ont erré et sont morts dans le désert. Toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne vas pas errer. Toi, tu vas entrer dans ton héritage. Toi, tu vas prendre en possession ce qui te revient. C'est aujourd'hui que ça commence. Et c'est pour toi. Et je terminerai avec la parole suivante. Ésaïe, chapitre 54, le verset 2 nous dit, c'est un passage qu'on connaît beaucoup. Moi-même, je l'ai lu à bien des reprises. Et je pense que moi-même, je l'ai interprété même à plusieurs reprises de façon tordue. Ce n'est pas glorieux, mais je dois le reconnaître. Mais je me suis repenti. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, etc. Souvent, lorsqu'on lit un texte pareil, on dit « Oui, Seigneur, élargis mes cordages. » Ce n'est pas ce que le texte dit. Qu'est-ce que le texte dit ? Toi, élargis. Toi, élargis. C'est à toi d'étendre tes cordages. C'est à toi d'arracher tes pieux et d'élargir l'espace de ta tente. C'est à toi de poser d'autres couvertures et de conquérir un espace plus large. C'est à toi de le faire. Dieu t'en donne l'occasion ce soir. Et il te dit, c'est pas moi qui vais le faire, c'est toi qui dois le faire. Arrache les pieux. Enlève ses limites. Considère qu'il y a des choses plus larges à voir. Enlève ses pieux. Élargis toi-même les cordages. Vois plus large. C'est à toi de le faire. J'ai remarqué une chose et je terminerai avec ça. Lorsqu'on entend des interpellations comme celle-là, souvent, bien des amis chrétiens réagissent de la manière suivante en disant « Oui, Seigneur, aide-moi. » Ce n'est pas « Seigneur, aide-moi », c'est « Seigneur, j'ai compris et je fais. » Tu m'as dit, tu seras de toute façon avec moi. Donc moi, je fais. Ce n'est pas « Seigneur, aide-moi ». Tous ceux qui prient comme ça, on ne les voit jamais progresser la plupart du temps. Pourquoi ? Parce qu'ils rejettent sur Dieu la responsabilité de ce qu'eux-mêmes doivent faire. Mais quand Dieu nous dit « C'est aujourd'hui que tu dois te décider », alors c'est aujourd'hui que tu dois prendre ta position. Ce n'est pas « Seigneur, aide-moi », c'est « Tu te décides aujourd'hui ». Et chacun d'entre nous sommes confrontés à ce genre de décision. Amen.